Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre, sans agressivité, les rouages de l'économie mondiale et aujourd'hui de l'économie française. Ces rouages, comme dans beaucoup de pays, ont été mis à l'arrêt pendant 2 mois et depuis le 11 mai, ils sont censés se remettre peu à peu à tourner. Mais ces rouages grincent, la situation de l'économie française est délicate. Après ces semaines de paralysie, on peine encore à mesurer l'étendue des dégâts, chômage, désindustrialisation, affaiblissement économique du pays. Mais le président de la République, Emmanuel Macron, a tenté lors de son allocution de dimanche 14 juin dernier de tracer les contours d'un plan de relance.
La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres. Et cela, nous devons le faire, alors même que notre pays va connaître des faillites et des plans sociaux multiples en raison de l'arrêt de l'économie mondiale. C'est pourquoi j'assumerai avec vous, avec toutes les forces de notre pays, avec le tissu de nos entreprises, avec nos salariés comme nos indépendants, nos corps intermédiaires, je m'engagerai dans cette reconstruction économique.
Ce plan de relance que semble dessiner à grands contours Emmanuel Macron est encore très flou. Mais déjà, des sommes importantes ont été mises sur la table à disposition de l'économie. 500 milliards d'euros, selon le chef de l'État français. Ces sommes sont-elles investies à bon escient? Sont-elles un remède momentané? Ou permettent-elles d'engager la relance économique tant attendue? Le pire est-il certain? Mais d'abord, où en est l'économie française aujourd'hui? Voilà quelques-unes des questions qui seront posées aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Anne-Sophie Alsif, vous êtes la chef économiste du BIPE, un bureau d'études et de prévisions économiques qui est spécialisé dans l'analyse sectorielle. Vous êtes une cinquantaine de spécialistes. Votre dernière publication, La France est-elle exposée au risque protectionniste, s'est publié aux presses des mines. Avec vous dans cette émission, le professeur d'économie et chercheur Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Philippe Askenazy, vous êtes directeur de recherche au CNRS, enseignant et chercheur à l'école normale supérieure, normale sup comme on dit. Vous travaillez beaucoup sur la question de la répartition des richesses. D'ailleurs, votre dernier livre s'intitule « Partager les richesses ». Il est publié aux éditions Odile Jacob. Au cours de cette émission, des reportages, évidemment. Nous ferons une espèce de petit tour de France, puisque nous irons rejoindre Angélique Ferrat à Strasbourg, en Alsace, Stéphane Burgat à Marseille et David Bachet en Isère, près de Grenoble. Depuis le 11 mai dernier, la France métropolitaine a commencé à se déconfiner. Le 15 juin dernier, l'Île-de-France est passée en zone verte. De nouvelles restrictions ont été levées. L'INSEE estime que depuis la mi-mai, la reprise économique est très nette. Peut-on dire que l'économie française a complètement redémarré, Anne-Sophie Alsif?
Alors, en effet, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque la reprise est là. On peut dire que l'économie a redémarré. On est toujours, selon les chiffres de l'INSEE, à un niveau à peu près à moins 12% par rapport à juin de l'année dernière. Mais donc, on n'est plus sur des moins 22% comme en mai ou moins 30% quasiment au mois d'avril. Donc, vraiment une reprise qui est là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se traduit cette reprise, c'est-à-dire de la consommation intérieure. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque notre modèle de croissance est basé sur cette consommation. Les ménages ont un taux d'épargne très important. Nous l'estimons au BIP à 25%. Et donc, il y a les capacités de consommer. Et ça sera vraiment, à mon sens, le moteur de la reprise.
Anne-Sophie Alsif, qu'est-ce que ça veut dire 25% d'épargne?
Alors ça veut dire que donc on regarde le taux d'épargne des ménages, donc une fois que par rapport à votre revenu vous avez retiré on va dire vos dépenses courantes, ce qui vous reste en fait ce que vous épargnez, et donc ce taux était à peu près à 14-15% avant la crise, et là on voit qu'il est à 25%. Donc du coup un taux très important qui veut dire que les ménages en tout cas ont une capacité de pouvoir d'achat. Alors après est-ce qu'ils vont l'utiliser ou pas, il faudra regarder dans le moyen long terme, parce que c'est à mon sens ce qui va conditionner la reprise, mais en tout cas pour l'instant, bah oui, il y a eu de l'épargne forcée à cause du confinement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et on voit que les ménages sont au rendez-vous et consomment.
Philippe Askenazy, la reprise est vraiment là?
Alors oui, tout à fait, il y a une reprise en fait. Contrairement à ce qu'a pu dire le président de la République, il n'y a pas eu de destruction, il ne faut pas faire une reconstruction de l'économie française. Il y a eu confinement, on a conservé nos capacités productives, notamment dans le segment des services. Mais la question est à la fois, est-ce qu'on va rapidement revenir à notre au niveau ante-crise sanitaire, et surtout, est-ce que c'est pas maintenant que l'on va connaître des vagues de licenciements majeur. Il faut avoir en tête que à la fois l'outil du chômage partiel comme mécaniquement la fermeture des tribunaux de commerce pendant le confinement ont repoussé les faillites d'entreprises et donc ont certainement repoussé des ajustements de l'emploi, des licenciements. Vous voyez par exemple même une entreprise qui ne va pas faire faillite parce qu'elle est largement soutenue par l'État comme Air France va procéder à des licenciements massifs. Or justement s'il y a une très forte dégradation du marché du travail à l'automne, eh bien c'est là où le levier de l'épargne dont parlait Madame Alcif risque de se refermer puisque ça redeviendrait une épargne de précaution face à un horizon extrêmement incertain. Donc on est en très grande incertitude et on rajoute en plus l'incertitude sanitaire, est-ce qu'il y aura une seconde vague ou pas. Donc on est dans des zones où de toute manière les prévisions économiques elles-mêmes sont quasi impossibles à faire. Lorsque l'INSEE a présenté ces chiffres là récemment, le directeur des prévisions disait bien que c'était à prendre avec les plus grandes pincettes.
Alors Philippe, est-ce qu'elle a dit Anne-Sophie Alcif, quand je vous entends, je me dis mais cet argent, ces masses d'argent importantes qui ont été mises par l'État dans la rémunération des travailleurs au chômage partiel, c'est-à-dire que les salaires étaient pris en charge par l'État, finalement, ils ne font que différer une crise. Est-ce que ça n'a pas été de l'argent jeté en l'air ?
Alors non, je pense pas du tout, parce que l'idée de faire ça, c'est en effet, très justement, il peut y avoir et il y aura sûrement beaucoup plus de faillites, on voit déjà dans les premiers chiffres et des pertes d'emplois qui sont annoncées, mais ce qu'il fallait absolument, c'est préserver le capital humain. Ce qui est excessivement compliqué dans ce genre de crise très très forte, hein, qui est une crise et un choc de demande et un choc d'offre, c'est que si vous vous retrouvez comme des pays aux États-Unis où vous avez peut-être beaucoup plus de flexibilité, mais où les gens peuvent se retrouver très très rapidement sans emploi, vous pouvez avoir un risque de perte de capital humain.
Et c'est qu'est-ce que vous appelez un risque de perte de capital humain ?
Eh bien, de la perte en compétences, tout simplement.
C'est pas parce que les gens sont sans travail pendant 2 mois qu'ils perdent leurs compétences, ou si ?
Alors, je suis tout à fait d'accord, 2 mois, c'est pas beaucoup, mais comme on est dans un marché de l'emploi qui est moins flexible, et vous allez me dire que ça dépend beaucoup de votre secteur, vous pouvez avoir des cas où c'est beaucoup plus dur de retrouver de l'emploi, notamment dans le secteur industriel, où là, en effet, si votre usine ferme, et en général, vous avez un emploi assez spécialisé et technique, à forte valeur ajoutée, ça va être peut-être plus compliqué de retrouver très rapidement le même emploi. Bien évidemment, les risques sont différents en fonction des secteurs, et puis l'autre aspect, c'est quand il y a le rebond, quand il y a la reprise, comme là, on l'a vu, et ben les gens sont dans l'entreprise et donc il y a les capacités globales de pouvoir profiter de ces reprises. Si votre marché de l'emploi n'est pas totalement flexible, ça prend quand même du temps de réembaucher des gens, de rechoisir les bonnes personnes. Là, les gens sont en place et donc ont vraiment la capacité de tout de suite rebondir et les entreprises peuvent profiter du rebond et de la reprise.
Philippe Askenazy, ce chômage partiel, c'est un bon investissement de l'État ?
Oui, je pense. Enfin, en tout cas, il y a une forme d'interprétation commune finalement du succès de l'Allemagne après la crise de 2008-2009, c'est que justement, elle avait eu recours massivement au chômage partiel, ce qui a le Kurzarbeit, ce qui est à nouveau sa politique aujourd'hui. Et donc, le chômage partiel, finalement, il est utilisé à travers l'Europe. Les États-Unis sont plutôt une exception au sein des pays de l'OCDE, parmi ceux qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Et donc, c'est surtout à nouveau dans une situation où ce n'est pas une crise qui est liée à un cycle normal, c'est une crise créée par un problème sanitaire, eh bien, il faut au maximum, en quelque sorte, maintenir les personnes en emploi, alors peut-être pas dans toutes les entreprises, mais dans celles dont on se suppute qu'elles vont rapidement retrouver un marché, une demande. Et d'ailleurs, c'est une très forte demande des entreprises elles-mêmes de maintenir ce chômage partiel, donc qui a été prolongé d'une certaine manière jusqu'à la fin de l'année civile, comme ce qu'a aussi décidé l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on dispose finalement d'assez peu d'outils, hein, sachant que l'État lui-même ne veut pas, par exemple, recruter en termes d'emplois aidés pour à la fois éviter une hausse très rapide du chômage et permettre à certaines entreprises un rebond rapide.
Alors je trouve relativement optimiste. Voilà quand même, dans ce reportage qui vient, un exemple de secteur qui souffre, celui du tourisme. À Marseille, une des villes, faut-il le rappeler, les plus pauvres de France, sur le Vieux-Port, cafés, restaurants et hôtels connaissent une crise majeure. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Stéphane Burgat à Marseille.
C'est devenu un rituel à chaque mise en place de la terrasse de cette brasserie près du Vieux-Port. Les serveurs travaillent avec une baguette à la main.
C'est une baguette en bambou mesurée 1 mètre exprès pour l'utiliser tous les jours, entre chaque table, par précaution.
Des tables aux pots de fleurs, il a fallu revoir et alléger toute la disposition. Un véritable casse-tête pour le patron Frédéric Jean-Jean.
C'est simple, dans la salle, j'ai déjà perdu sur 50 places, j'en perds 10. Ah ben, 20% de places en moins dans la salle. En terrasse, je perds 30%. Comment on va faire? C'est assez complexe.
Également membre du syndicat de l'Union des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, il milite pour un allongement du remboursement des prêts de l'État et une exonération temporaire des charges. Le temps de se refaire une santé financière, car la survie de beaucoup d'établissements se joue à court terme. C'est le cas par exemple d'un petit bar-restaurant, celui de Fabrice, dans une ruelle du centre-ville.
Les terrasses ne se remplissent pas. Là, on est à vide. Là. Hier, on était vide. Là, au moment où on parle, on a 2 cafés. Je suis en plein service et je n'ai pas d'assiette. Depuis ce matin, on est à 15 euros de chiffre. Hier, on a fait 40 euros dans la caisse. Nous, personnellement, on ne va pas tenir. Je vais changer, je vais reprendre mon métier que j'avais avant. Je vais repartir dans le bâtiment. Novembre, à mon avis, c'est fini pour moi.
Reprise timide également dans le secteur de l'hôtellerie. Nicolas Guyot, directeur de l'hôtel Carré du Vieux-Port, déplore un grand vide dans ses registres.
Nous n'avons pas beaucoup de monde dans nos établissements. On repart difficilement, on continue à utiliser le chômage partiel. On attend nos clients. Aujourd'hui, on les compte, c'est vrai, presque sur les doigts d'une main. Sur la région, on a un remplissage entre 10 et 20% de nos établissements.
Une situation qui inquiète en haut lieu. La mairie de Marseille vient de lancer une opération marketing d'urgence pour rassurer les touristes. Le secteur, il faut dire, représente 1,3 milliard d'euros de retombées annuelles. Pour la ville, l'enjeu est énorme, mais les indicateurs ne sont pas bons. Des compagnies aériennes ne vont pas reprendre leur liaison ici cette année. D'autres restent incertaines. Les escales de croisiéristes ne reprendront, elles, qu'à un rythme réduit fin août, dans le meilleur des cas. Et le secteur de l'événementiel reste bloqué. Le directeur de l'Office du tourisme, Maxime Tissot, tire la sonnette d'alarme.
On sait qu'on a à peu près 3 millions de touristes qui viennent sur la période d'été. Donc moi, je pense qu'on ne les aura pas, on sera beaucoup moins. Sur le mois de juillet, sur le mois d'août, les réservations sont en train de tomber, mais elles ne sont pas pléthoriques. On va perdre au bas mot 500 millions d'euros dans l'histoire. J'ai vu Nantes qui a lancé 2,7 millions de visiteurs cet été. Moi, je ne prends aucun engagement là-dessus. Je ne sais pas, j'avance en marchant. On va voir.
Et le directeur de l'Office de tourisme marseillais qui milite également pour que les mesures de chômage partiel dans le secteur du tourisme puissent être prolongées jusqu'à la fin de l'année.
Un reportage signé Stéphane Burgat dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Philippe Askenazy, ces chiffres que donnait ce bistrotier, ce cafetier du Vieux-Port de Marseille, 40 euros de recettes dans une journée, 15 euros au moment où Stéphane Burgat l'a rencontré le lendemain, sont des chiffres terribles.
Ah oui, tout à fait. Hein. C'est pour ça que je n'étais pas si optimiste que cela sur le futur de l'économie française, qui est une économie qui, comme d'autres économies du sud et du centre de l'Europe, a un poids du secteur du tourisme très important. Et celui-là va être impacté de manière prolongée. Et même la consommation intérieure dans les restaurants va rester relativement limitée. Les gens viennent prendre une boisson, mais pas nécessairement prendre un plat. Là aussi, parce qu'il y a, je crois, des personnes qui s'inquiètent pour le devenir de leur emploi. Il y a déjà eu une très forte montée du chômage. Donc on risque un effet domino. Et le cas de l'hôtellerie-restauration est intéressant parce que c'est aussi un grand pourvoyeur d'emplois à temps partiel pour les jeunes, et notamment les jeunes étudiants. Et là, il y a une autre forme d'inquiétude à la rentrée, c'est-à-dire avoir une masse de jeunes qui ne pourront pas financer la poursuite de leurs études et qui risquent d'aller grossir les rangs de Pôle emploi sans perspective d'emploi. Donc là, il va y avoir une nécessité très probablement durant l'été d'une réflexion autour de la jeunesse en France et que l'État mette de l'argent. Lorsque vous parlez des 500 milliards d'euros, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, il s'agit essentiellement de garanties de prêts par l'État. Ce n'est pas des dépenses budgétaires effectives, ce ne sont pas des transferts. Cela, sur les 500 milliards, ils représentent au grand maximum, aujourd'hui, 60 milliards d'euros.
Donc, c'est-à-dire, quand vous dites des transferts, vous voulez dire de l'argent qui est passé des caisses de l'État aux poches, soit des entrepreneurs, soit des ménages.
Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, sous différents dispositifs, y compris les dispositifs de chômage partiel. Donc, voilà, les 500 milliards d'euros, c'est de l'affichage quand même en partie, même si au bout du bout, l'État risque de perdre à travers ces mesures de garantie de prêt. On pourrait même l'interpréter d'une autre manière. C'est plutôt un soutien aux banques. Les banques ont peur de faire face à beaucoup d'entreprises qui ne pourront pas rembourser leurs crédits. Le fait que l'État les garantisse, c'est un soutien indirect aux banques, mais ce n'est pas un soutien direct à l'économie. Et donc, il y a encore des marges de manœuvre qui, je pense, vont être activées pour éviter une situation de domino à la rentrée. C'est vraiment une rentrée qui, à la fois sur le plan sanitaire et économique, présente des risques majeurs qui vont dessiner peut-être le futur de toute la décennie 2020 pour l'économie française.
D'ailleurs, la chef économiste du FMI, Gita Gopinath, dit exactement ça. Elle estime que les économies dépendant des services, en particulier du tourisme, vont particulièrement souffrir de la crise. C'est votre avis aussi, Anne-Sophie Alsif ?
Tout à fait, ces économies vont particulièrement souffrir. C'est vrai qu'au plus haut, en France, des mesures de confinement, tout ce qui est hébergement, restauration, a été impacté à plus de 90%. Donc c'est vraiment un des secteurs, notamment avec la construction, secteur automobile, qui ont été excessivement touchés. Et c'est vrai, comme on vient de le dire, c'est des secteurs très, très, très pourvoyeurs d'emplois, beaucoup, beaucoup d'emplois, et en plus des emplois localisés. Ce ne sont pas des emplois qu'on peut délocaliser. Donc c'est vrai que ça pose vraiment un problème parce que c'est en termes de nombre de personnes tout à fait important. Et puis voilà, c'est vraiment pourvoyeur d'emplois localement. Donc pour les territoires, ça permet vraiment à beaucoup de personnes d'avoir un revenu et ça a vraiment un impact sur l'économie locale. Donc en effet, il y aura une forte conséquence. Après, là où je serais un petit peu plus nuancée, c'est aussi quand même l'hébergement, la restauration des entreprises qui ont une forte capacité de résilience. C'est-à-dire que, bien évidemment, ils ont été très impactés par la crise, mais s'il y a justement cette volonté de dépenser, hein, et là il va y avoir les mois d'été pour voir quel sera le comportement adopté par le citoyen, et bien c'est aussi des entreprises qui ont une forte capacité de rebond, qui peuvent rapidement peut-être retrouver du chiffre d'affaires. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le minimiser, et justement dans la manière de gérer la crise et peut-être des plans d'aide qui vont être mis en œuvre par l'État, je pense que ce sera un élément qu'il faut mesurer, la résilience de ces entreprises, qui sont quand même très spécifiques, localisées, et c'est vrai que dès qu'on retrouvera une situation normale de consommation, l'été, c'est vraiment un secteur qui pourrait vraiment en premier profiter du rebond. Donc je serais un petit peu moins négative, et puis pour finir sur les 500 milliards, je ne pense pas quand même que ce soit que de l'affichage. Bien sûr, il y a une partie de transfert, il y a beaucoup de prêts garantis par l'État, mais aussi pourquoi l'État passe par les banques, parce que les banques, et d'ailleurs il y a des banques, mais également la Banque publique d'investissement, ont un contact direct avec les entreprises et ont déjà le dossier, puisque en France, la majorité du financement des entreprises se fait par crédit bancaire et non pas par levée sur les marchés financiers. Donc, beaucoup d'entreprises ont déjà une banque et donc ces banques connaissent bien l'entreprise et donc c'est aussi un moyen d'avoir la bonne information et peut-être de bien adapter le mode de financement aux besoins des entreprises. Donc voilà, je serai un peu plus nuancée sur l'impact de la crise sur ce tourisme, je pense qu'il y a une forte capacité de rebond.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie française aux prises avec les conséquences de la pandémie de coronavirus. Deux invités, Anne-Sophie Alsif, chef économiste du BIPE, le BIP, un cabinet d'études spécialisé dans les études sectorielles, et Philippe Askenazi, professeur d'économie à l'École normale supérieure à Paris. On parle du tourisme, mais finalement... Ce tourisme, il est pourvoyeur d'emplois relativement faiblement qualifiés. Est-ce que la France n'a pas tort de miser autant sur ce tourisme depuis des décennies, Philippe Askenazi ?
Je ne pense pas. Alors, premièrement, il y a certainement effectivement des emplois qu'on va dire être peu qualifiés, mais le tourisme français a plutôt monté en gamme dans les dernières décennies, avec l'irruption. Alors certes, beaucoup d'hôtelleries qui sont sans étoiles, mais qui sont plutôt de charme. Hein. Donc globalement, ce ne sont pas nécessairement des emplois de mauvaise qualité, et c'est plutôt une réflexion qu'on devrait pousser sur une revalorisation de ces emplois, de la même manière que on a sur le cas des soignants une telle réflexion aujourd'hui. Et donc la France, en plus, elle a des atouts touristiques qui sont absolument indéniables. Paris est une des villes les plus connues au monde. Le monument touristique le plus emblématique au monde, et c'était la Tour Eiffel qui était venue. Il y avait même eu une évaluation économique de la valeur de la Tour Eiffel en elle-même. C'était 1000 milliards d'euros. Donc vous voyez, 1000 milliards d'euros, c'est pratiquement la moitié de la dette française qui était juste la Tour Eiffel. Bon, c'est juste pour montrer que c'est la France est un phare touristique européen. Il n'y a pas de raison de se priver de cet avantage en quelque sorte comparatif d'une France avec sa diversité géographique, sa diversité culturelle qui attire à travers le monde, même si là, on voit bien qu'il y a une grande fragilité à des chocs sanitaires. Bon, donc ça, une fois que l'on a dit cela, c'est clair que l'économie française ne peut pas reposer, n'a jamais reposé strictement sur le tourisme. On a aussi des services qui sont puissants, mais qui comprennent des services aux entreprises. Et aujourd'hui se pose effectivement la question d'un retour. Alors je parle plutôt qu'une relocalisation, c'est plutôt un retour d'une politique industrielle en France. La crise a clairement mis en évidence que la conception finalement d'un capitalisme, une économie de marché uniquement basée sur des flux entre pays, eh bien, mettait l'économie mondiale dans une très grande fragilité, y compris donc l'économie française. Sur le plan même sanitaire, on a bien vu problématiques d'équipement de protection comme de médicaments. Donc va se poser la reconstruction d'une stratégie industrielle, une forme d'indépendance pour l'économie française. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le tourisme. Non, il faut au contraire additionner les éléments stratégiques. Si on veut se projeter sur un long terme, et évidemment, on ne peut pas faire non plus l'économie de bâtir aujourd'hui pratiquement une planification écologique pour l'économie française. Donc, peut-être que cette crise, non pas doit aboutir à une reconstruction, mais à un changement de trajectoire pour notre économie avec des perspectives de long terme qui pourraient être plus roses et
plus industrielles
que celles que l'on connaît aujourd'hui.
Plus industrielles. Philippe Askenazi, vous me fournissez une transition parfaite. Certaines entreprises ont vu le boulet passer très près au cours des semaines passées et n'ont été sauvées parfois que par les aides publiques et les prêts bancaires. À Monnetier de Clermont, non loin du massif du Vercors, c'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé David Bachet.
Donc ici, on découpe toutes les pièces pour fabriquer des semelles. C'est un travail vraiment semi-artisanal.
Cela fait plus de 40 ans qu'Oreste Caprio passe ses journées dans cet atelier. Au début des années 90, pour échapper à une délocalisation en Pologne, il rachète le site et crée l'entreprise de Clermont. Depuis, le salarié est devenu patron et son entreprise traverse une nouvelle épreuve.
Alors, pas tué par la délocalisation, bien au contraire, parce qu'on est redevenu leader en France. Ben, le coronavirus, oui, il aurait pu nous tuer, hein, très sincèrement. Il était temps que ça s'arrête. Depuis le mois de mars, chiffre d'affaires zéro quasiment, puisque Tous nos clients ont dû fermer, tout était priorité sur l'alimentaire, donc plus de clientèle, jusqu'on a redémarré le 11 mai.
Jusqu'à cette date, pendant 2 mois, les 36 salariés ont été mis au chômage partiel, un dispositif financé par l'État qui a permis à l'entreprise de tenir. Mais parce que les mois qui viennent sont très incertains, Oreste Caprio a sollicité une autre aide.
On a fait appel au PGE, prêt garanti de l'État. On a emprunté 900 000 euros.
C'est important pour une entreprise comme la vôtre ?
Ben oui, quand même. Oui.
Ça représente quoi par rapport à votre chiffre d'affaires habituel ? Et ça vous permet de faire quoi ?
Ça représente pas loin de 10%. C'est une sécurité pour nous. On ne savait pas où on allait. Donc on a pris la décision de faire ce prêt pour pouvoir nous soulager et assumer le paiement des salariés, de nos matières premières, de tous nos frais, en cas de manque de trésorerie.
Depuis plus d'un mois, les salariés ont retrouvé leur atelier. Les machines étaient déjà suffisamment espacées et Valérie Nivelle s'est vite habituée à porter un masque pour mettre ses semelles en sachet. Sur ce plan, elle est donc rassurée et pour la suite aussi.
Je pense pas qu'il y ait un arrêt ou qu'on retombe encore en chômage partiel, je pense vraiment pas, non. De toute façon, on est les seuls à faire les meilleures semelles, c'est clair. Nous travaillons dans une activité que, de toute façon, c'est sûr et certain, il y aura toujours besoin. Je me fais vraiment pas de soucis là-dessus, non.
Vous pensez que vous êtes privilégié là-dessus par rapport à d'autres entreprises et à d'autres salariés ?
Certainement, je pense à la restauration, qui ont été vraiment touchés par le Covid. Après, ici, je pense qu'on est une petite entreprise qui tourne bien déjà. Non, je crains pas du tout pour la suite.
Une confiance que veut partager le patron Oreste Caprio. La reprise a commencé bien faiblement, mais le rythme des commandes s'est vite accéléré.
La première semaine, donc, on était à quasiment zéro de commande. La deuxième semaine, on était à moins 70% de notre chiffre habituel. La troisième semaine, moins 60%. Et aujourd'hui, on arrive à être équivalent. Donc maintenant, on va voir sur les semaines qui suivent si ce maintien continue.
L'entreprise écoule ses semelles et ses lacets auprès de la grande distribution et des magasins de chaussures ou de sport. Sur tous les emballages, du bleu, du blanc et du rouge.
On est fabricant français, donc on fabrique quasiment tout ici. C'est un savoir-faire que l'on met en avant. La grande distribution principalement et les autres, moi l'appel que je peux leur faire, c'est de favoriser les entreprises françaises. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils travaillent qu'avec nous, mais il faut qu'on change un peu les habitudes.
Vous pensez que ça doit être un enseignement de cette crise liée au coronavirus ?
Oui, je le pense sincèrement. Et je le pense aussi pour l'économie française. On a un savoir-faire qu'on ne doit plus laisser partir.
L'entreprise de Clermont a été créée pour échapper à une délocalisation. Si elle survit au coronavirus, cette origine en forme d'exception pourrait même devenir un modèle.
Un modèle, nous dit David Bachet dans son reportage Éco-d'ici-Éco d'ailleurs sur RFI. Anne-Sophie Alsif, c'est emblématique de ce que devrait faire l'économie, l'industrie française, ce reportage ?
Oui, tout à fait, c'est un très bon exemple. La montée en gamme, hein, est vraiment positionnée sur du haut de gamme pour ne pas être en concurrence avec des pays ayant un coût du travail plus faible. Donc vraiment la compétitivité qu'on appelle hors coût, c'est vraiment, je pense, tout à fait ce qu'il faut faire pour l'industrie française, qui a déjà bien sûr bien commencé à le faire et qui se positionne de plus en plus dans les chaînes de mondial, dans les chaînes de valeur mondiale sur du haut de gamme et sur de la forte valeur ajoutée. Là où je voudrais insister, parce qu'on parle beaucoup, et là, il y a l'exemple de la Pologne sur des risques de délocalisation, et c'est vrai que il y a aussi ce discours qui est important sur où relocaliser. Je pense qu'il ne faut pas se tromper.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de la Pologne ?
Oui, parce qu'il disait il y avait un risque de délocaliser dans le reportage en Pologne.
Oui.
Il y a un peu le débat de dire, ah bien oui, il faut donc relocaliser en France, et donc il y a souvent l'exemple des pays de l'Est qui est cité. Je pense que là, il faut faire attention et pas se tromper de dimension et de périmètre. La Pologne est européenne. Et à mon sens, c'est là où va être justement toute la le changement de paradigme et la problématique, c'est de penser une politique industrielle européenne et non plus française, allemande ou italienne, qui sont les trois puissances industrielles européennes, où chacun fait sa propre politique dans son coin sans se mettre en accord alors que nous avons la même monnaie. Et à mon sens, ça peut être ça aussi, cette crise, ça peut aussi aboutir à ça, notamment dans les plans européens qui vont être mis en œuvre, c'est de dire qu'il faut vraiment réfléchir à une stratégie commune au sein de l'Union européenne par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. C'est ça le sujet. C'est pas la France seule contre l'Italie ou contre l'Allemagne ou contre la Pologne. Non, à mon sens, ce n'est pas ça le débat. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait, quelle politique industrielle, quelle politique d'indépendance, de souveraineté. Il faut définir des filières stratégiques où là, on décide au niveau européen d'être complètement souverain et de ne pas confier des fabrications à d'autres continents. Donc bien évidemment, il y a tout ce qui est numérique, mais aussi la santé comme on l'a vu. Et qu'est-ce qu'on met en place comme politique industrielle par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis ? Et peut-être que cette crise sera aussi un moyen de réfléchir à ça, parce que le problème aujourd'hui, c'est que la politique industrielle commune n'est pas dans les traités, n'est pas une compétence à proprement parler de l'Union européenne, comme par exemple la compétence commerciale. Donc les pays mettent en œuvre chacun de leur côté leur politique, on a la même monnaie, du coup on se fait concurrence entre nous, au lieu d'être forts ensemble, comme nous sommes très intégrés chaque pays dans les chaînes de valeur européennes, et de se dire, ben voilà, ensemble. Par exemple, il y a l'exemple de la batterie, hein, où la France et l'Allemagne ont commencé à se mettre ensemble pour essayer de faire des batteries en Europe. Et c'est tout à fait ce qu'il faut, puisque c'est par exemple un domaine où il y aura énormément de demandes mondiales en raison notamment des voitures qui vont être de plus en plus aux batteries. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience qui est importante et je pense qu'elle a été renforcée par la crise du coronavirus. Donc pour ces petites entreprises, vraiment les prêts garantis par l'État, le fait de monter en gamme, et de dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à rester en France, mais c'est surtout la France et l'Europe qui nous aidera face aux États-Unis, face à la Chine.
Philippe Askenazy, est-ce qu'il faut aller, comme a tenté de le faire, ou comme le fait dans une moindre mesure le groupe PSA, de faire venir des travailleurs polonais dans une usine du nord de la France ?
Oui, alors ça c'est un sujet qui est extrêmement complexe, le cas Renault. Alors effectivement, si on est dans une
perspective... Peugeot.
Peugeot, pardon, oui. Dans une perspective européenne où il y aurait un marché du travail unique, il n'y aurait aucune anomalie à ce que de telles usines du groupe PSA, située dans tel pays, accueille des travailleurs, des intérimaires de notre pays. Il se trouve que, justement, on est... Ce que appelle Anne-Sophie Alsif de ses voeux, c'est-à-dire une stratégie européenne, n'a pas lieu aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qu'a montré la crise sanitaire ? C'est que chacun des pays a refermé ses frontières. Les différents pays se sont battus pour obtenir chacun de leur côté des masques et des équipements. Et donc, dans cette perspective-là, ça peut apparaître comme très choquant qu'il y ait, pour une part de la population en France, des travailleurs venant de Pologne qui viennent dans des usines françaises. Donc je crois que derrière cela, c'est pas une question finalement économique, mais véritablement une question politique. Soit on veut une Europe intégrée, soit on ne souhaite pas une Europe intégrée, mais on peut pas faire un petit peu des deux mélangés, en quelque sorte. C'est quelque chose qui nourrit finalement les mécontentements, les populismes, l'incompréhension. Donc il faut aujourd'hui des choix politiques clairs dans une direction ou dans une autre. Et voilà, aller de l'avant, surtout dans une situation de crise comme celle que l'on connaît aujourd'hui.
Anne-Sophie Alsif, vous voulez réagir à ce que dit Philippe Askenazy ?
Oui, tout à fait, parce que au niveau européen, bien sûr, au début, ça a été compliqué, mais on voit qu'au fur et à mesure de la crise, il y a vraiment eu une réponse européenne à la crise, avec notamment la Commission qui va emprunter sur les marchés à son nom. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions, même dans la manière de financer la crise qui ont été mises en œuvre, et notamment par les pays du Nord. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée, on ne peut pas dire que toujours chaque pays n'est pas solidaire. On l'a même vu pendant la crise, où après, il y avait vraiment une idée de mettre les lits au niveau européen et de faire des transferts des malades en fonction des besoins et d'aller dans d'autres pays. Donc non, il y a de la solidarité européenne qui, je pense, justement, a été renforcée par cette crise. On le voit avec le plan annoncé par la Commission européenne où l'idée, c'est d'aider, donc d'emprunter sur les marchés et d'aider les pays en fonction de comment, justement, ils ont été impactés par la crise, notamment l'Italie. C'est un des pays qui va en bénéficier le plus. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité. Et l'autre aspect, c'est que ce qui est compliqué, c'est de dire, en effet, bien sûr, il y a des travailleurs polonais qui viennent travailler en France, mais il y a aussi des Français qui vont travailler en Espagne, qui vont travailler en Pologne, qui vont travailler partout en Europe. En effet, c'est ça le marché unique européen. Et donc l'idée, c'est que les travailleurs européens puissent justement aller d'un pays à l'autre et travailler partout. Donc il y a aussi des Français qui travaillent dans d'autres pays. Il n'y a pas que des étrangers qui travaillent en France. Donc ça, c'est assez intéressant, mais en effet, c'est aussi la question d'un choix politique. Quelle Europe on veut ? Aujourd'hui, normalement, on a un libre marché, donc c'est normal que les gens puissent aller travailler où ils veulent. Mais en tout cas, pour quelle politique européenne industrielle on va mettre en œuvre, ça, c'est vraiment les États qui doivent ensemble se mettre d'accord et surtout ne pas oublier, parce que c'est souvent ce qu'on fait, un débat franco-français ou européen centré. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport aux États-Unis et surtout par rapport à la Chine. Parce que pendant que nous, on se pose toutes ces questions, eux veulent devenir la première puissance industrielle d'ici 2050 et sont vraiment en passe de bien y arriver. Donc ça aussi, il faut aussi avoir conscience qu'on est dans un monde ouvert avec des prises de conscience qui ont été fortes, que ce soit aux États-Unis qui maintenant privilégient massivement leur marché intérieur et la Chine qui en fait de même. Et donc il faut avoir conscience de ces changements pour nous aussi, Européens, s'adapter.
Philippe Askenazy, est-ce que quand il invite Sanofi, un grand de la pharmacie mondiale, à investir plusieurs centaines de millions d'euros en France, quand il annonce que la production de paracétamol va être relocalisée en France pour les besoins du pays, est-ce que Emmanuel Macron prend le bon chemin pour conforter cette industrie française face à la concurrence mondiale ?
Premièrement, il y a deux sujets en quelque sorte différents. Avoir une souveraineté sur une production de médicaments de base n'est qu'en partie une politique industrielle. C'est aussi une politique, voilà, donc de souveraineté, même de sécurité nationale. Il faut avoir en tête que jusqu'à relativement récemment, hein, jusqu'aux années 1990, enfin, peut-être. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, beaucoup de choix industriels devaient passer par une moulinette au niveau du ministère de la Défense en France pour savoir si ça remettait en cause la sécurité nationale. Je crois qu'on est en train d'une certaine manière de revenir vers cette stratégie en quelque sorte de défense et de souveraineté française avec le cas du paracétamol. Mais pour le cas de Sanofi, là on a une entreprise dite française, mais qui n'est plus française, c'est une multinationale qui n'a plus véritablement de nationalité française, et donc là, la France est plutôt dans un positionnement de se battre pour essayer de maintenir, parfois avec des pressions politiques, une localisation d'une activité en France pour cette multinationale-là, avec finalement le même type de stratégie que peut avoir Trump vis-à-vis d'autres multinationales au niveau américain. Donc c'est en fait deux éléments qui sont assez différents et qui, l'un comme l'autre, ne peuvent pas être en fait porteurs d'une renaissance d'une industrie française. Il faut avoir une vision qui n'est pas en fait une vision défensive sur ce qui est déjà l'existant, mais plutôt se projeter. Je pense qu'à nouveau, réfléchir à éventuellement une planification écologique, apporterait un stimulus pour avoir une nouvelle industrie au sens très 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 large du terme en France.
On retourne sur le terrain avec un nouveau reportage. Les aides gouvernementales ne peuvent pas tout. Déjà saignée à blanc au cours des dernières décennies, l'industrie textile française connaît une nouvelle épreuve. Écoutez ce reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Angélique Ferrat en Alsace.
Une fois traversé le village de Dombard-la-Ville, un village typiquement alsacien avec ses maisons à colombages et ses géraniums aux fenêtres, vous arrivez sur l'usine Labonal et son logo rouge et noir décoré d'une panthère. L'usine existe depuis 1924, c'est l'un des derniers producteurs de chaussettes 100% françaises. Ses 100 employés ont repris le travail le 11 mai dernier avec des entrepôts pleins, 60 000 masques invendus et 400 000 paires de chaussettes d'avance.
Pendant le confinement, tout ça s'était arrêté?
Alors tout ça, ça a été arrêté pendant pratiquement un mois et demi, deux mois. On a juste redémarré l'activité pour fabriquer les masques, où on avait qu'une seule série, il y avait 22 machines qui tournaient.
En 2016, un hypermarché retire à Labonal sa production de chaussettes marque distributeur et la société plonge. Elle est placée en redressement judiciaire. Elle s'en sort tout juste, mais elle ne peut toujours pas emprunter auprès des banques. Dominique Malfait, PDG de Labonal.
La reprise ne va pas être facile, puisqu'on est sur une saison d'été qui est une saison faible pour les chaussettes. Et lorsque le consommateur est déconfiné, il ne va pas se précipiter pour aller acheter des chaussettes. Il y a d'autres achats à faire avant les chaussettes. Voilà. Le magasin qui est stocké aujourd'hui, il nous dit non, j'achète pas de chaussettes, j'en ai plein mes rayons. Donc je vais attendre de les vendre et puis je les achèterai après. Quoi. Nous avons des commandes, c'est plutôt timide et plutôt retardé. Après, on ne sait pas. Après septembre, on ne sait pas. La fin de l'année, ça sera pour nous du tout ou rien. Quoi.
Le secteur textile français travaille surtout pour des marques de luxe, l'hôtellerie et l'industrie automobile. Et ces secteurs ont été durement affectés par la crise sanitaire. Du côté du pôle textile Alsace, on est clair, certaines sociétés ne vont pas survivre à la crise du coronavirus. L'association compte une soixantaine d'entreprises du Grand Est. Son président, Benoît Bassier, veut espérer que les grands discours sur la réindustrialisation ne vont pas être oubliés. Selon lui, l'industrie textile française a un avenir si on l'aide.
Je pense qu'il y a des entreprises qui ne vont pas se redresser, qui vont fermer à cause du corona. Maintenant, ce n'est pas encore trop tard pour pouvoir réussir à les sauver. Parce qu'une entreprise qui ferme, c'est des savoir-faire qui disparaissent. Or, on s'est rendu compte pendant la crise que ces savoir-faire étaient indispensables. Il faut recréer de la filature en France, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de fil de lin sans passer par les Chinois, parce qu'en plus, quand on a des produits de fibres naturelles ou de produits qui ont été complètement éco-conçus, on a des tas de métiers à faire pour remplacer les plastiques et pouvoir redévelopper une vraie économie basée sur de l'écologie. C'est comme ça qu'on pourra les sauver, ces entreprises, en redonnant des marchés et des possibilités. Donc, profitons-en pour pouvoir l'aider à émerger. Et c'est ces investissements qu'aujourd'hui, je ne vois pas encore venir.
L'industrie textile française emploie aujourd'hui 103 000 personnes.
Un reportage Écodissier, d'ailleurs signé Angélique Ferrat. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait semelles et lacets. Là, on est dans la chaussette. Il y a une certaine cohérence dans cette émission, dans les sujets traités. Philippe Askenazy, vous évoquiez vous-même tout à l'heure le facteur écologique, environnemental. Là, on entend des industriels nous dire c'est la solution à nos problèmes, à nos maux économiques. C'est un verdissement de l'économie. Vous partagez ce point de vue?
Alors, si vous voulez, là aussi, c'est des éléments de choix politique, sauf que on est face à un impératif qui est lié au changement climatique, à la fois l'adaptation de nos économies et éviter qu'il y ait un emballement de ce réchauffement climatique. Donc, un jour ou l'autre, nos économies seront obligées de s'adapter. Donc, autant commencer le plus tôt possible pour maximiser, en quelque sorte, le bien-être social. Alors, je ne suis pas spécialiste du cas du textile. La question écologique va pouvoir rentrer dans le cas du textile. Mais ce que l'on peut noter, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'État a plutôt eu tendance à communiquer sur le cas de vieilles industries polluantes. On va sauver l'aérien, on va sauver Airbus et des industries en plus masculines. Tout ça me fait penser à finalement la situation entre les deux chocs pétroliers où la France, sous Raymond Barre, avait décidé d'abandonner l'industrie textile et de favoriser
dans les années 70.
La fin des années 1970. la France avait eu un plan acier. Et on avait laissé de côté le secteur textile, et finalement l'acier français a énormément souffert ultérieurement. Et à cette époque-là, en fait, la France était passée à côté de la révolution informatique, et avait abandonné son secteur textile, et expose l'interprétation que l'on en a, c'est que finalement il y avait eu un choix de l'acier parce que c'était des industries masculines. Et on avait laissé de côté le textile parce que c'était des industries féminines. Et je crois qu'aujourd'hui se rejoue encore ça. On va défendre la vieille industrie masculine et on ne va pas se projeter vers un futur où la préservation avec un renouvellement d'activités comme celle du textile. Donc voilà, je crois qu'il faudrait que d'une certaine manière on puisse redonner aussi aux citoyens des leviers de choix. Alors peut-être que ça sera à travers la convention citoyenne là, dont on attend les résultats pour ce week-end qui va enclencher un nouveau processus. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revit en quelque sorte la fin des années 1970, avec finalement d'ailleurs un positionnement politique qui est un petit peu le même. On a des centristes en quelque sorte à l'ancienne qui sont au pouvoir et qui défendent une vision vieillotte, masculine de l'économie française.
Anne-Sophie Alsip, vous devez être particulièrement sensible à cette défense de l'industrie féminine par Philippe Askenazy.
Alors oui, moi je ne verrais pas ça en des termes d'industrie masculine, féminine, du passé, du futur ou ce genre de choses. Moi je regarde juste comment, dans quel secteur la France est spécialisée. Et en effet, dans son industrie, il y a en effet l'aéronautique, il y a tout ce qui est luxe, et donc là qui est peut-être plutôt une industrie féminine. Il y a la chimie qui va être plus masculine. Enfin, l'idée c'est de regarder comment est spécialisé le pays. Et vous vous spécialisez pas du jour au lendemain dans une autre filière comme ça, parce que ça demande beaucoup d'investissement et ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, je ne serai pas dans ces termes de masculine et féminine, mais je regarde plus là où la France est présente. Et là aussi, le verdissement est vraiment indispensable. Quand on voit cette entreprise de textile, elle a tout à fait raison, il peut bien sûr avoir de l'écologie dans le textile, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'eau. Et on voit que dans ces secteurs-là, si on veut les garder en France et en Europe, c'est vraiment l'idée, comme je le disais, de faire du haut de gamme. Donc, de faire des vêtements qui soient respectueux de l'environnement. Et là, en effet, on peut faire énormément d'économies en teinture, en produits chimiques, en utilisation de l'eau. Ça pourrait être aussi l'idée de créer un label en disant, il y en a déjà beaucoup, cette industrie textile ne pollue pas. Et se mettre sur du haut de gamme. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en compétition justement avec l'Asie et vous pouvez garder votre industrie en France. Donc pour moi, la problématique, elle est vraiment pas sur l'ancien, le nouveau, le féminin ou le masculin. Elle est sur R&D, elle est sur la recherche et le développement, elle est sur l'innovation. L'aéronautique, c'est pareil. Aujourd'hui, le challenge, je sais quoi, c'est de trouver le nouvel avion, de construire le nouvel avion qui ne pollue pas. Ça, c'est vraiment l'objectif, et le pays, la zone qui trouvera ce genre de produit en investissement massivement en innovation redeviendra leader dans les chaînes de valeur mondiales sur ce segment-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Chine investit des milliards et des sommes considérables en recherche et développement dans ces domaines. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment la course à la technologie, à la montée en gamme, et quel pays, quel bloc arrivera à se positionner en premier sur les vaccins, ou que ce soit le secteur de la santé avec la crise, on l'a très bien vu, quelle unité scientifique aura les moyens de trouver le bon vaccin, les bons médicaments. Et c'est ça, à mon sens, qui fera la force d'un pays, la force d'un bloc, et qui lui assurera son indépendance.
Eh bien, on voit à travers cette émission qui se termine maintenant que cette crise du coronavirus n'a fait que mettre en lumière les défis, les difficultés auxquelles l'économie française et l'économie européenne est confrontée depuis belle lurette. Merci à vous deux, Philippe Askenazy et Anne-Sophie Alsif, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur les réseaux sociaux via l'application Pure Radio de RFI ou sur le site internet www.rfi.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
tout à l'heure